On vit dans une époque où on a du mal à prendre le temps présent. On est toujours en train de se projeter. L'Éternel est le « Je suis ». Il est l'Éternel. Il est là. Amen. Il est là et nous voulons aussi être là, présent. Pas se laisser disperser, mais être présent dans sa présence. Pour commencer, c'est pas le titre de mon message, mais c'est pour se dire qu'on vit actuellement une actualité très riche, hein, aujourd'hui. Il y a une actualité qui est très riche. Aujourd'hui, il y a les élections. Et c'est vrai que par rapport aux résultats qu'il pourrait y avoir ou certaines choses, il peut y avoir des anxiétés, il peut y avoir certaines choses dans la vie. C'est un moment important. Et quand je regarde la parole, et je voudrais vous donner cela pour vous encourager, c'est dans Luc chapitre 3, ne le prenez pas. Il est marqué que la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode était tétrarque de la Galilée. Philippe, son frère, il était tétrarque de l'Iturée. Et Lysanias, tétrarque de l'Abinel. Et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. La vie tourbillonne. Là, j'ai fait exprès de vous nommer ça. Nous voyons un tas de gouverneurs, les tétrarques qui tétarquaient, les gouverneurs qui gouvernaient, les gens qui étaient là et qui gouvernaient, c'est des personnes qui sont dans les livres d'histoire. Et je voudrais vous dire que l'actualité est chargée, on entend beaucoup de choses, il y a une politique qui est assez présente, mais la parole de Dieu a été adressée, il nous est dit, à Jean-Baptiste. Il n'a pas été adressé à ces hommes de pouvoir, mais il a été adressé à Jean-Baptiste, un homme qui était obscur et qui était ignoré et qui était en retraite dans le désert, tout seul. Et la parole de Dieu est venue auprès de cet homme-là. J'aimerais vous dire ce matin, dans le tourbillon de la vie, et quel que soit peut-être aussi ce qu'on pourra vivre les temps présents, je veux vous dire que la parole de Dieu est pour là ce matin, pour toi. Amen. Elle est là pour nous. Elle est là pour chacun d'entre nous. Alors, mon message ce matin, c'est le lâcher prise. Et je sais que Pierre a une prière et il a dit, donne-nous cette capacité à pouvoir faire le lâcher prise, à pouvoir relâcher certaines choses. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse faire une lecture. Alors là, on va faire une grande lecture, c'est tout le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Tout le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Et vous allez comprendre après pourquoi on a fait la lecture de tout le chapitre 15. Et dans ce chapitre 15 de l'Évangile de Luc, il y a trois récits. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait trois personnes à pouvoir lire ce passage dans Luc, chapitre 15. Alors, j'ai rien préparé, alors j'espère que... Alors, Luc, chapitre 15... Donc j'aimerais demander à Vincent si tu pouvais commencer à faire cette lecture. Donc il y a le micro. Hein. Donc Vincent va pouvoir faire la lecture du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc ça c'est la parabole du mouton perdu. Ensuite j'aimerais que Laetitia puisse faire la lecture du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc ça c'est la pièce d'argent perdue. Et je demanderai à Yves aussi s'il peut faire la lecture ensuite du verset 11 jusqu'au verset 24. J'étais réservé la plus grande partie, Yves. Voilà, on va écouter.
Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, Il appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes deux biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, survint sur le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ?» ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de ces mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir.
Ah, amen, amen. Merci pour cette lecture. Et c'est vrai que l'Évangile est admirable, et vous allez comprendre que dans tout ce qu'on a pu lire, il y a un point commun, et il y a vraiment un enseignement pour nous aujourd'hui. Souvent, ces passages-là, on le voit comme étant, et c'est une réalité, étant le cœur de Dieu vis-à-vis des âmes qui se perdent. C'est-à-dire que Dieu a vraiment cette précaution, cette préoccupation pour les âmes perdues qui se perdent, pour les âmes qui se perdent. Par contre, j'aimerais qu'on puisse regarder ces versets-là d'une façon différente, comme une révélation de notre cœur. Quel doit être notre cœur en tant que croyant? Quelle attitude de cœur devons-nous avoir pour saisir les promesses de Dieu? J'aimerais commencer avec la lecture que Laetitia a faite sur la femme qui a perdu une pièce. Il nous est dit que cette femme a perdu une pièce et cela représente ce qui est perdu. Elle a perdu une pièce dans sa maison et la Bible nous dit qu'elle a perdu une pièce sur les 10 et il lui en reste en fin de compte encore 9 autres. Mais elle a perdu une pièce. Elle a encore les poches pleines, mais elle a perdu une pièce et son focus, c'est vraiment de pouvoir la retrouver, retrouver ce qui lui manque. Et je vais directement au but. Ce matin, il y a peut-être des personnes qui ressentent dans leur vie qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque chose qui a été perdu. Je ne vous parle pas de personnes qui sont complètement diminuées, parce qu'il nous est dit que cette personne-là avait encore 9 pièces. Elle avait encore les poches pleines. Mais je parle de personnes qui ressentent dans leur vie qu'il y a quelque chose qui a été perdu. perdu suite peut-être à des situations, des événements dans votre vie. Vous avez peut-être perdu une certaine notion de la louange que vous aviez auparavant, perdu un certain zèle, peut-être perdu une communion intime que vous aviez eue avec Dieu avant. Vous avez peut-être perdu aussi peut-être l'amour pour la parole. Elle ne vous encourage plus comme elle a pu vous encourager à un certain moment. Vous avez peut-être perdu l'amour pour la maison de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est à travers cette pièce perdue, ce qui nous est dit, c'est qu'il y a quelque chose dans nos vies qui peut être perdu. Et le piège dans tout cela, vous savez, quand on a 9 pièces et qu'il n'y en a qu'une qu'on a perdue et qu'il nous en reste 9, le piège, c'est de dire, j'ai plus ça, mais regarde tout ce que j'ai. J'ai perdu une pièce, mais il m'en reste encore 9. Je suis pas si pire que ça. J'ai changé, je me suis amélioré, je suis pas si pire que ça. Je suis encore une bonne personne. Il me reste 9 pièces. Je prie encore quand je mange. Je pense encore à Dieu. Je parle de temps en temps de Dieu. Je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai des livres chrétiens dans ma bibliothèque. J'écoute de la musique chrétienne. Et des fois, je fais même un don pour une bonne action chrétienne. En fin de compte, je suis correct. J'ai encore les poches pleines. Et cette attitude, vous le comprenez, ça nous conduit dans une certaine médiocrité. La femme, cette femme-là, avait les poches pleines, mais elle était focalisée par rapport à ce qui lui manquait. Et elle va retourner sa maison. Hein, souvent, c'est les hommes qui sont plus désordonnés dans les maisons. Et là, c'est la femme qui va tout mettre sans dessus pour retrouver cette pièce. Cette femme, en fin de compte, elle avait une envie de retrouver ce qui avait été perdu. On pourrait lui dire, mais arrête de te préoccuper, arrête de courir dans tous les sens, arrête de t'agiter. Bon. Et en fin de compte, non. Cette personne-là voulait retrouver sa pièce. Et peut-être qu'il y a des gens qui veulent retrouver ce qui a été perdu. Retrouver la louange que tu avais peut-être à un certain moment, retrouver cette communication avec Dieu. Je pense qu'il y a des gens qui ressentent que leur intimité avec Dieu, il y a quelque chose qui a été perdu. Mais je veux, quelque part, il faut que votre cœur ait ce profond désir de vouloir restaurer. Hein, restaurer ce qui a été perdu. Recherchez ce que Dieu vous a donné. Il vous a donné quelque chose. Restaurez ce que Dieu vous a donné. Et à travers ça, relâchez. Hein, le lâcher prise. Relâchez n'importe quoi, tout ce qui peut vous retenir à ne pas saisir. Hein, ça, c'est ma prière. Relâche ce qui te retient de ressaisir ce que Dieu t'a donné. Cette femme, elle veut restaurer, elle veut retrouver sa pièce, alors qu'on ne vive pas dans une certaine médiocrité en disant, il m'en reste encore 9, mais je vous le demande dans le nom de Jésus, retrouve. Retrouve ce qui t'a été volé dans le nom du Seigneur. Ce matin, ça va être court, mon message. Hein. Je vais faire un focus sur chaque passage et on pourra aussi avoir un temps après avec un chant pour se recueillir et puis prier. Le deuxième passage que nous avons, qui a été lu par Vincent, c'est la brebis perdue. Alors la pièce représente ce qui est perdu et la brebis perdue représente ce qui est captif. Et ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'il nous est dit que le berger en avait 99. Donc c'est encore plus rassurant. Mais il en manque une. Il y en a une qui est captive. Alors on peut s'imaginer le berger en train de compter ses brebis. 95, 96, 97, 98, 99. Hop, il recommence. Pour s'apercevoir en fin de compte, eh bien, qu'il lui manque une brebis. Il y a une brebis qui manque. Elle est captive quelque part. Soit qu'elle est prise par un animal sauvage, soit qu'elle est dans un buisson, dans un ravin. Mais il y en a une qui est captive. Et il n'y a que le berger qui le voit, cette brebis captive. Y a-t-il quelque chose qui est captif en toi? On pourrait dire, non, il n'y a rien de captif. Regarde toutes les libérations que j'ai eues. Hein? Regarde tout le reste. Regarde toutes les libérations que j'ai eues, les 99 libérations que j'ai eues. Je ne bois plus, j'avais une tendance alcoolique, je ne suis plus alcoolique. J'avais plein de captivités, des grosses captivités, mais elles sont toutes parties. Regarde les 99 libertés dans ma vie. Et on pourrait se dire, je suis libre dans bien des domaines. Hein, dans bien des domaines, je suis libre. Et le berger, c'est Jésus, il nous dit non. Je vois toutes les libérations que tu as, je vois les 99, mais ce que je veux faire, c'est te délivrer de cette brebis qui est captive, qui est perdue. Je vois toutes les choses que j'ai pu te libérer, et si on a eu cet acte de libération, c'est grâce à qui ? C'est grâce à Dieu, et Dieu le voit. Il le voit, toutes ces choses, il est au courant de toutes les choses qui étaient captives en nous et qui nous a libérés. Mais Dieu se fixe sur la brebis perdue. Je veux enlever cette captivité qu'il y a encore en toi. Une captivité que seul le berger connaît. Moi, j'aime à dire que là, devant moi, je vois uniquement les visages, les yeux, les nez. Je vois seulement le côté physique. Mais je sais qu'il y a quelque chose de spirituel derrière toutes les personnes ici présentes. Il y a une âme, il y a un esprit. Je sais qu'il y a des choses, et le berger, ton Seigneur Jésus-Christ, connaît cette petite captivité que tu as encore en toi, cette brebis perdue. Il nous a dit dans la parole que Christ libère. Et quand Christ libère, nous sommes vraiment libres. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on soit moins pire qu'avant. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on soit amélioré. Le désir de Dieu, c'est qu'on marche de liberté en liberté. Il y a quelque chose de continu. Ce n'est pas quelque chose de statique. Hein. Si vous parlez de la liberté comme quelque chose de statique, ça, c'est la liberté du monde. Mais en tant que chrétien, ce que veut Dieu, c'est qu'on marche de liberté en liberté, de libération en libération, de libération. Il y a quelque chose de continu. Ce n'est pas statique. Alors même si on se dit qu'on est bien libre dans un tas de choses, Jésus a le regard sur la brebis perdue, sur ce qui est encore captif en toi. J'ai récupéré ça, une phrase dans un livre qui nous disait que tant que les chrétiens contemporains ne découvriront pas l'insatiable appétit que la liberté était dans les premiers chrétiens, nous resterons dans un christianisme en sommeil. Qu'on soit réveillé, hein, que l'Esprit de Dieu, amen, nous réveille. Qu'on soit toujours sur cette démarche de libération en libération. Pas quelque chose de statique, pas quelque chose qui nous dit « ça y est, j'y suis arrivé, c'est bon, c'est terminé ». Si c'est le cas, autant qu'on meure ce soir, parce qu'il nous fut peu de temps pour retomber encore dans des captivités. Mais Dieu est là pour nous libérer de progrès en progrès. Moi, ce qui me fait peur, entre parenthèses, ce n'est pas quelqu'un qui vient s'agenouiller en disant « j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie », puis tout de suite je suis effrayé des péchés qu'il peut avoir dans sa vie. Ce qui me préoccupe le plus, c'est l'esprit religieux qui peut s'accrocher à nous. Vous savez, on est de nature religieuse. L'homme est de nature religieuse. Et la nature religieuse, c'est de ne plus faire l'état de ce que nous sommes, sous un certain orgueil, mais qu'on soit toujours dans une attitude de repentance, de libération, hein, qu'on n'ait pas peur de nous-mêmes. Et qu'on ne reste pas dans quelque chose, dans une image, en disant qu'on n'a plus besoin de rien du tout. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez besoin de la grâce de Dieu ? Amen. Oui, il y a 99 délivrances qui sont dans ta vie, et ça, c'est merveilleux. Mais le berger est auprès, et après la centième. Donc, on ne va pas passer notre temps à flatter les 99. Hein ? En 1900 et quelques, j'ai été délivré de... Maintenant, je suis correct, etc., etc. Non, il y a une continuité. On a un moment, on parle souvent de notre témoignage. Ça, notre témoignage, c'est quand l'Évangile est venu toucher notre cœur. Mais qu'on ne reste pas sur toujours le témoignage du démarrage. Notre témoignage, c'est quelque chose de vivant de chaque jour. La parole nous dit que le royaume de Dieu appartient à des gens qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont, hein, être statique. Pas seulement se contenter de ce que j'ai, des grandes libérations qu'on a pu avoir, mais par la grâce de Dieu, je veux m'emparer de ce qui est captif. Par la grâce de Dieu, il y a encore des aspects de ma vie, peut-être que tu te dis qu'il y a encore des aspects dans ta vie, des pensées, dans ton regard, dans ton cœur, que personne ne voit, mais que Dieu seul le sait, et cette captivité-là, ben, tu ne vas pas passer ta vie avec. Je vais vous encourager à venir devant Dieu, à se prosterner et à prononcer devant le Seigneur. Seigneur, je viens chercher la brebis perdue qu'il y a dans mon cœur. Je veux être libre devant toi. Nous devons relâcher ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Et le dernier passage, donc la pièce représente ce qui est perdu, la brebis représente ce qui est captif, et le fils perdu, le fils prodigue, représente ce qui est refroidi. Donc c'est le passage que Yves nous a lu. Et le fils représente ce qui est refroidi. Le fils est refroidi vis-à-vis de la maison de son père. Et il nous est dit qu'il commence à s'éloigner de la maison de son père. En fin de compte, c'est l'histoire d'une personne dont le cœur s'est refroidi envers son père. Et dans le chapitre 15, dans tout ce que nous avons pu lire, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. C'est toutes les choses qu'on lit, ce n'est pas la cause, c'est le résultat. Ce que je veux dire, c'est que ce fils, depuis des années, commençait à il y a quelque chose qui commençait à mûrir, à germer dans son cœur. Et ce qu'on voit ici, c'est le résultat, c'est pas la cause. Le fils, en fin de compte, s'écarte de la maison du Père, il s'écarte de l'amour de Dieu. Et le fils, ici, il s'écarte aussi de quelque chose d'autre, il veut se débarrasser du légalisme de son frère. Quand vous voyez le passage qu'on a lu, il avait un frère qui était assez légaliste et il veut se sauver de ce frère-là. Pour lui, ce n'était pas un cadeau, ce frère. Je pense qu'il devait penser, qu'il devait dire « Je ne supporte plus ce frère. Il me fatigue. Vois tout ce qu'il a pu dire sur moi. Il me fatigue. » Et souvent, et là, il y a un enseignement pour nous, souvent, les gens quittent l'Église à cause, des fois, de frères et de sœurs. Ce matin, on a entendu une prière qui demandait qu'il puisse y avoir des guérisons dans le cœur de certains frères et certaines sœurs. Et souvent, des personnes peuvent quitter l'Église à cause de certains frères et certaines sœurs. Je voudrais vous poser cette question, mais pourquoi nous sommes chrétiens? Sous quel principe nous sommes chrétiens? Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à connaître l'Évangile en 1993, je vais vous parler de ce qui m'a interpellé dans les premières réunions. Ce n'était pas l'ambiance, ce n'était pas les chants, ce n'était pas non plus le bâtiment, parce que le bâtiment, pour pouvoir entrer dans ce bâtiment, il fallait vraiment en vouloir. Il y avait un tout petit couloir, très serré, il n'y avait pas de devanture, il y avait quoi, une dizaine, quinzaine de personnes. C'était dans un endroit assez sombre. Et ce qui m'a interpellé, ce n'est pas les chants, ce n'est pas toutes ces choses-là. C'est la vérité de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Et le fait d'être chrétien, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel. Il ne faut pas que notre foi s'appuie sur quelque chose de sentimental ou d'émotionnel. Moi, je crois à la parole parce que je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que Dieu est le créateur du monde. Toutes ces choses-là sont vraies. Si vous parlez avec certains scientifiques, c'est prouvé, la création du monde. Quand vous prenez certaines choses au niveau de la Genèse, c'est vrai, la parole de Dieu est vraie. C'est pour ça que je crois en Jésus-Christ, parce qu'elle est vraie. Il n'y a que lui qui a les paroles de la vie éternelle. Ça a été l'objet d'une prière, il n'y a que lui. À qui pouvons aller, vers qui pouvons-nous aller? Personne, il n'y a que Jésus-Christ, parce que la parole est vraie. Et il ne faut pas que notre foi s'appuie sur quelque chose d'émotionnel. Est-ce que c'est toujours le top d'être chrétien tous les jours? Non, pas forcément. Est-ce que Jésus répond toujours aux prières? Non. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Par contre, ma foi est basée sur le fait que c'est vrai, pas sur de l'émotion. Et c'est vrai que des fois, on peut être déçu d'un frère et d'une sœur, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut quitter l'Église, parce que la parole reste vraie. Et là, je reviens à mon fils, au fils perdu. Il quitte l'Église, mais il se trompe. Il quitte l'Église, il quitte la maison de son père. Il veut quitter la présence de Dieu. Mais il se trompe. Il se trompe pourquoi? Parce que c'est pas le frère qui va quitter, c'est pas la maison de son frère qui va quitter, c'est la présence de Dieu. Moi, ce que je veux garder dans mon cœur, c'est que mon cœur appartient au Seigneur. Hein, votre cœur appartient au Seigneur. C'est lui qu'on veut servir. On veut servir qui ? Le Seigneur. Je veux vraiment que vous compreniez ça. On n'est pas là pour servir les uns les autres. On est là pour servir Dieu. Vous allez être déçus de certaines personnes. Et même, je peux vous donner une prophétie. Vous avez été blessé et puis vous allez blesser d'autres. On se blesse tous les uns des autres. Mais on est là pour servir qui ? Dieu. Amen. Amen. Des frères légalistes, des sœurs légalistes, il y en aura toujours. Des frères qui disent des choses qu'il ne faut pas, il y en aura toujours. Je peux vous faire tout un historique de toutes les peaux de banane qu'on m'a données durant des années, mais ce que je crois, c'est que Dieu est vrai, la parole est vraie. Mon cœur appartient au Seigneur, lui, il ne change pas. Il est parfait envers moi. Je l'aime de tout mon cœur et je reste ici. Donc en fermant la porte à ce frère qui l'a blessé, en fin de compte, ce fils perdu a fermé la porte devant Dieu. Il est parti de la maison. Il y a quelque chose qui fait qu'il est parti de la maison, il en a marre. Et ensuite, on le voit sombrer dans certaines choses. Il semble de plus en plus confortable avec les choses du monde. Il donne de ses biens dans des choses inutiles et il est de plus en plus à l'aise avec ces choses-là. Et la cause de tout cela, c'est parce qu'il s'est refroidi vis-à-vis de Dieu. Et il s'enlise de plus en plus. Même, il croyait que les gens du pays, parce qu'il a été sur l'extérieur, il croyait que les gens du pays allaient quelque part lui faire devenir quelque chose. Et en fin de compte, ces personnes-là lui ont donné tout l'inverse. Ils l'ont même quelque part démonisé. Et ils l'ont mis dans la soue au cochon. On pourrait dire que l'histoire pourrait s'arrêter là, pour certains. Mais pour lui, elle ne s'arrête pas là. Des gens qui quittent, des gens qui sont blessés, déçus de telle ou telle chose, ils peuvent tomber dans ces choses-là, ils reviennent dans le monde, et ça pourrait s'arrêter là. Mais pour lui, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il regarde à l'intérieur de lui-même. Il va arrêter de regarder à l'intérieur des autres, de son frère, ou d'autres choses, mais il regarde à l'intérieur de lui-même, et il revient, il fait un pas vers Dieu. Amen. Il fait un pas vers Dieu. Donc ça, le Fils représente ce qui a été refroidi. Et on peut être refroidi dans notre vie chrétienne. Mais je vous encourage ce matin peut-être à faire ce pas vers Dieu. Il nous est dit que le Père est venu vers son Fils. Dieu est là pour nous tendre les bras. Fais un pas vers Dieu. Ce qui est intéressant dans ces trois histoires, il y a une chose commune. Par contre, il y a des situations complètement différentes. Il y a par exemple, au niveau du contexte, il y a une maison, il y a un troupeau et un palais. Dans chaque histoire, donc, il y a quelque chose de perdu. Il y en a une histoire, un récit, c'est la pièce, une brebis. Pour l'autre, c'est un fils. À chaque fois, il y a des personnages différents. Il y a une femme, un berger, un père. Mais dans les trois cas, il y a une détermination jusqu'à ce qu'il retrouve ce qui était perdu. Et là, il y a de la joie. Il y a de la joie, amen. À chaque fois dans le passage, c'est marqué qu'il y a de la réjouissance. La réjouissance. Je crois que la réjouissance doit faire partie de la maison de Dieu. Amen. Vous savez, souvent on dit des fois, arrête avec les émotions. Pas trop d'émotions dans la réjouissance. Mais il y a cette image, c'était Luc Dumont qui donnait cette image. C'était en 1945, quand il y a eu la libération de Paris. Je ne pense pas que les Alliés ont dit « Oh, doucement, doucement, pas trop d'émotions, c'est bien, vous êtes libérés. » Non. Et je crois que la libération, elle est propre à la maison de Dieu. Amen. Et il faut qu'il y ait de la joie. Il faut qu'il y ait de la joie. C'est vrai que certains peuvent se dire, des fois ça chante trop fort, même des fois vous applaudissez, des fois il y a de l'enthousiasme, mais c'est propre à la maison de Dieu. Hein, qu'on ne se laisse pas atténuer par rapport à ça. Atténuer. Et donc, il est marqué qu'à chaque fois, dans ce récit, il y a de la réjouissance. Et je crois qu'il y a de la réjouissance ce matin parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer ce qu'ils ont perdu. Il y a de la réjouissance ce matin parce qu'il y a des gens qui veulent donner ce qui est captif dans le cœur. Je crois qu'il y a de la réjouissance ce matin parce qu'il y a des gens qui veulent revenir à Dieu. Ce qui a été refroidi, eh bien, vous voulez faire un pas vers Dieu. Amen. Donc il y a de la réjouissance. On peut dire à la face de notre ennemi, tu nous as peut-être volé telle ou telle chose que j'avais perdue. Je me suis peut-être refroidi. Il y avait quelque chose de captif en moi. Mais Dieu veut rétablir sa souveraineté sur toi. Je veux chercher ce que l'ennemi a volé. Cela ne sera rien d'autre que de la reconnaissance. Si on fait cette démarche, il ne peut y avoir que de la reconnaissance, de la louange et de l'adoration. Amen. Je relâche tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Je ne sais pas si j'ai bien apporté, mais je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre qu'il faut relâcher certaines choses, le lâcher prise, comme disait Pierre dans sa prière.